Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez, en principe, la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite prêché avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour toute personne qui l'écoute.
Et nous allons entendre les lectures de la parole de Dieu qui seront l'objet de la prédication, qu'on continue l'exposition de l'Épître selon Timothée. Mais nous aurons plusieurs passages bibliques aujourd'hui, on va aller sur différents textes. Je n'ai pas choisi d'aller voir les textes concernant les anciens dans l'Ancien Testament, on aurait beaucoup plus de textes à lire encore. Nous resterons dans le Nouveau Testament ce matin et nous commençons dans le livre des Actes. Vous pouvez déjà aller dans les Actes au chapitre 14 et les prochains passages vous seront présentés. Merci pour la lecture.
Acte 14, partie du verset 23. Il est écrit: Il fit nommer des anciens dans chaque église. Et, après avoir prié et jeûné, il les recommandait au Seigneur en qui il avait cru. Et on va sauter, on va Acte chapitre 20, le verset 17 jusqu'à 28. Versets 17 et 28. Autant pour moi. Acte 20, verset 17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Et verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Pour perdre l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. On va dans 1 Timothée, chapitre 3, de versets 1 à 7. 1 Timothée, chapitre 3, on lit la parole. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, marié d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Tite, à partir du chapitre 1, du verset 5 à 9. Tite, chapitre 1, du verset 5 à 9. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps, par le Dieu qui ne ment point et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédiction qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. À Tite, mon enfant légitime de notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il se trouve quelques hommes irréprochables, mariés d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain de déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, sain, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Après, on va dans 1 Pierre, chapitre 5, de versets 1 à 5. 1 Pierre, chapitre 5, de versets 1 à 5. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Jésus, de Christ, et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous ont échu en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Après, on revient encore dans Hébreux, chapitre 13. D'accord. Hébreux, chapitre 13, et le verset 17. Hébreux, chapitre 13, le verset 17. On lit la parole. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux la différence, quand ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Merci.
Je suppose que vous avez tous déjà vu une trompette. Eh bien, si quelqu'un ne souffle pas dedans, il n'y a aucun son. Eh bien, il n'y aura aucune compréhension dans notre cœur si l'Esprit de Dieu ne souffle pas dans sa parole pour que nous puissions la saisir. Nous comptons sur l'Esprit de Dieu pour comprendre sa parole encore ce matin. Et nous continuons, comme annoncé, la lettre de Paul, inspirée par l'Esprit Saint, envoyée à Timothée, son enfant spirituel. Peut-être que vous vous souvenez d'il y a 2 semaines, ça fait encore pas trop loin. Il y a 2 semaines, nous avons parlé des 4 dimensions de la prière. Ça vous dit quelque chose? Ou l'engagement 3D des hommes dans la prière. Ou encore l'habillement 3D des femmes qui expriment leur piété. Vous vous souvenez pas? Venez cet après-midi à la réunion de prière, on va en parler. Mais pour l'instant, on continue. Ça, c'était dans le chapitre 2 de cet épître. Aujourd'hui, nous arrivons aux qualifications de l'évêque. Nous rappelons qu'il y a de faux enseignants dans l'église à Éphèse. Il y a de faux enseignants dans l'église à Éphèse et qu'un moyen pour les démasquer, c'est les regarder vivre à la manière des qualifications données dans le chapitre 3 de 1 Timothée. Donc il y a de faux enseignants dans l'église à Éphèse et un moyen pour les démasquer, c'est les regarder vivre à la lumière des qualifications données dans le chapitre 3 de 1 Timothée. D'ailleurs, ça me fait penser à une histoire que j'ai entendue, une histoire vraie, de personnes qui sont arrivées dans une église en disant « Nous sommes prophètes, nous voulons parler à l'Assemblée ». Un évêque leur a dit, vous verrez quand je dis évêque, c'est un ancien pasteur, hein, on verra ça tout à l'heure. Donc un évêque leur dit, il les accueille, et puis il leur dit simplement « Eh bien, messieurs, restez une année dans l'église ». Et puis, nous verrons si vous manifestez les qualités demandées par les anciens dans 1 Timothée 3. Et ensuite, eh bien, vous pourrez prendre la parole. La réponse à cette question est déterminante. Alors, en l'occurrence, dans ce cas-là, ils sont repartis fâchés, montrant qu'ils n'avaient pas les qualifications demandées par Dieu. Si Dieu a donné des directives, ce n'est pas à nous d'en donner d'autres. Restons fidèles à la parole de Dieu pour la formation et le choix des responsables d'Église. Alors j'ai choisi de ne pas prendre tout le chapitre 3 en même temps, hein, donc on l'a séparé en trois parties, pour avoir le temps de parler des évêques, c'est ce que nous ferons aujourd'hui, des diacres, c'est ce que nous ferons la prochaine fois, et de l'importance de l'Église pour la vérité, ce que nous ferons encore plus tard. Hein. Il y aura trois éléments. Mais aujourd'hui, nous parlerons donc des évêques avec un petit menu de trois éléments. Le premier, c'est évêque, de qui parle-t-on ? Deuxièmement, l'esprit place l'aspiration dans le cœur de l'évêque. Ça, c'est le verset 1. On va s'arrêter sur cette partie-là importante. Et puis ensuite, l'Église reconnaît les qualifications de l'évêque. Ça, c'est les versets 2 à 7. Donc voilà un petit peu le menu, vous savez où on va. Donc, évêque, de qui parle-t-on ? Hein, si vous avez votre Bible ouverte, c'est une très bonne idée, dans 1 Timothée 3, vous voyez, donc quand on commence le texte, cette parole certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une belle activité, il faut donc que l'évêque soit trois petits points. Donc on parle d'évêque. Oui, mais on parle de quoi ? On parle de qui quand on parle d'un évêque ? Peut-être si vous avez un arrière-plan catholique romain, vous avez en tête l'évêque qui est responsable d'un diocèse. Il est au-dessus des prêtres et en dessous des cardinaux et du pape. Puis si vous n'avez pas ça en tête, ce n'est pas grave. Et en fait, les fidèles catholiques appellent même cet évêque « Monseigneur ». Pour ma part, je n'utilise ce titre que pour Jésus-Christ. Dans la Bible, en fait, il n'y a pas tous ces offices. Il n'y a que deux offices. Et ils se trouvent dans 1 Timothée 3. Il y a aussi ailleurs, mais ici, ils sont exprimés. Deux offices, celui d'évêque et celui de diacre, qui sont en fait les deux décrits dans ce chapitre 3. Alors, nous verrons la fonction de diacre la prochaine fois. Aujourd'hui, on se concentre sur l'évêque. Alors, le terme évêque, là, je fais une affirmation et ensuite, je ferai la preuve. Le terme évêque est interchangeable avec les termes ancien et pasteur ou berger. C'est la même personne, chaque mot utilisé souligne quelques aspects différents de sa fonction. Donc, le terme évêque est interchangeable avec les termes ancien et pasteur ou berger. C'est la même personne et chaque mot utilisé souligne des aspects différents de sa fonction. Alors, je vais vous le démontrer parce que c'est pas mon idée, c'est la parole qui nous le dit. On a lu ce texte dans Acte 20, verset 17 et ensuite le verset 28. Pour cette raison-là, il est écrit « Cependant de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens. Bon, » si vous voulez les termes grecs, on peut en parler tout à l'heure. On va rester sur les termes français. Donc, les anciens de l'Église. Et ensuite, verset 28, il continue, il parle toujours des mêmes personnes. Il parle à ces personnes. « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque. » Il est en train de parler aux anciens. Ils ont dit qu'il était établi évêque. Et pour faire quoi ? Pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Et faire paître, c'est le pâtre qui fait paître, le pâtre, c'est le pasteur, c'est le berger. Okay ? Vous avez les trois éléments ici dans ces textes. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons une seule mention du terme de berger pour des personnes que Dieu donne à l'Église. Ça, c'est dans Éphésiens 4, 11. Toutes les autres fois, il est parlé de berger dans le Nouveau Testament, il s'agit de Jésus-Christ, le divin berger. Il y a une petite exception, c'est les bergers à Bethléem quand ils reçoivent l'once de l'ange. Mais sinon, il est parlé de Jésus-Christ et à un seul endroit, il est parlé de berger ou de pasteur, c'est le même terme, pour des personnes données à l'Église. Et Jésus-Christ est le divin berger et un des passages les plus connus se trouve en Jean 10, les versets 11 à 13. Ce sont des paroles de Jésus qui sont juste fantastiques. Il dit « Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup s'en empare et les disperse. » C'est qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. Moi, c'est Jésus qui parle, je suis le bon berger. Donc, tous les bergers donnés à l'Église agissent à la suite, en conformité et en soumission au divin berger. tous les bergers qui sont donnés à l'Église agissent à la suite, en conformité et en soumission au divin berger qui vit en eux et leur donne la tâche de prendre soin du troupeau. Comme on l'a vu dans Actes 20, verset 28. Pierre lui-même, que certains considèrent comme le premier d'une lignée d'évêques, réfute cette idée de lignée en parlant à des anciens comme lui. Il n'y a pas de niveau de hiérarchie. Il utilise d'ailleurs un terme que nous pourrons traduire de « co-anciens ». Ils ne sont pas anciens à sa suite, mais il est ancien aux côtés d'eux. Et ça, on le trouve dans 1 Pierre 5, verset 1 à 4, qu'on a lu tout à l'heure, je vais le relire. « J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant à la gloire qui doit être révélée, faites paître, donc on a ancien, faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur, non en tyrannisant ceux qui vous sont confiés, mais en devenant des modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. » Donc là, il y a plein de choses que je viens de dire qui sont dans ce texte. Et Tite utilise également le terme « ancien évêque » de façon interchangeable. On l'a lu avant, je le relis encore, comme ça on l'a en tête. « Je t'ai laissé en Crète, donc Tite 1, verset 5, « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il se trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni indisciplinés, il faut en effet que l'évêque soit, etc. » Alors j'espère que vous êtes maintenant convaincus que la parole de Dieu, que dans la parole de Dieu, les termes ancien, évêque et berger ou pasteur font référence à la même personne. Alors évidemment, chaque terme a une connotation. Évêque indique plutôt le rôle de direction, de supervision, de surveillance. Le terme ancien indique le rôle de conseiller sage et avisé. Et le terme de pasteur ou berger indique le soin, la protection, la pourvoyance, le don de soi. Et dans l'église locale où Dieu nous a placés ici, eh bien nous sommes trois évêques anciens pasteurs. Il y a donc Roland, Marc et moi-même. Les évêques anciens pasteurs, alors durant la prédication, je ne vais pas chaque fois dire les trois, je parlerai toujours d'évêques parce que c'est le terme utilisé dans Timothée. Mais dans vos têtes, vous pouvez toujours faire le lien. Donc les évêques anciens pasteurs sont les responsables de l'Église, c'est eux qui ont l'autorité de direction de l'Église. Mais cette autorité de conseil n'a pas de moyen d'obliger à obéir. Ces outils, les outils de l'évêque, c'est l'exemple et l'enseignement. C'est l'Église dans son ensemble qui a l'autorité de commandement, cette autorité normative qui a le moyen des clés qui est exercée dans la discipline d'Église pour exiger l'obéissance. Donc les évêques ont un rôle de surveillant, sage, conseiller, qui prennent soin, si on prend les trois choses. Donc maintenant que nous savons de qui nous parlons, lorsqu'il est question d'évêques, allons voir comment Dieu met en place par deux moyens importants qui seront nos deux prochains points. Le premier moyen, c'est la reconnaissance intérieure. L'esprit place l'aspiration dans le cœur. Et deuxièmement, la reconnaissance extérieure. L'Église reconnaît les qualifications. C'est ainsi que Dieu met en place, en fait, les évêques dans l'Église. Donc, reprenons le verset 1. Regardez avec moi. « Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une belle activité. » Et ce chapitre 3 commence d'ailleurs par cette expression « cette parole est certaine ». On l'a déjà rencontrée, cette expression. Vous vous souvenez ? Au chapitre 1. Une expression qui veut poser quelque chose de très important. Et au chapitre 1, c'était l'Évangile. « Cette parole est certaine », c'est au verset 15 du chapitre 1, « cette parole est certaine et digne d'être reçue ». Vous vous souvenez de ça ? Que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver des pécheurs, dont je suis moi le premier. C'était quelque chose de tellement fondamental. J'avais pris un peu de temps pour nous arrêter là-dessus, parce que c'est vraiment un élément clé. Et donc ici, au chapitre 3, on retrouve de nouveau cette parole est certaine. Et on le retrouvera encore au chapitre 4, au verset 9, qui parle de l'espérance qui nous motive à agir avec courage et détermination. Cette parole est certaine. Donc il souligne ceci. Donc ici, Paul, au chapitre 3, parle de la charge d'évêque et de l'aspiration à cette charge d'évêque qui est une belle activité. Donc on va un peu réfléchir à ces deux aspects de l'aspiration et de la belle activité. Alors l'aspiration de l'évêque. Le terme utilisé pour « aspirer à » est utilisé que deux fois dans le Nouveau Testament, ailleurs d'ici. Et voici comment un commentateur décrit ce verbe. Qu'est-ce que ça signifie, « aspirer » ? Ce verbe signifie « tendre vers » ou « s'étirer pour saisir ». Il n'évoque pas de mobile abstrait, mais décrit un geste concret. Autrement dit, Paul parle ici de quelqu'un qui prend des dispositions pour devenir dirigeant. Fin de citation. Donc si quelqu'un aspire à devenir évêque, il vivra d'une manière consacrée avant même d'avoir la fonction. C'est ça, aspirer. En fait, il vivra la vie chrétienne normale, qui est vérifiable dans ses actions. Parce qu'en fait, ce qui est demandé aux anciens ici, enfin aux évêques, c'est quand même la vie chrétienne normale. Alors il y a l'enseignement, on va en parler. Peut-être là, il y a une caractéristique, c'est vrai. Mais il va chercher à être consacré à Dieu. Si je prends un exemple, il ne sera pas seulement à l'église lorsqu'il a une responsabilité particulière. Il ne sera pas un chrétien du dimanche. Alors oui, le dimanche sera pour lui un jour consacré à Dieu. Et si vous venez aux études bibliques, vous saurez ce que signifie le sabbat chrétien. Nous venons de le voir dans l'étude biblique de Luc la semaine passée. Et si Jésus est le maître du sabbat, puisque c'est ce que nous avons vu, ce n'est pas pour que nous fassions ce qu'il nous plaît. C'est qui le maître du sabbat ? Ah oui, ce n'est pas nous, c'est lui. Pour que nous lui rendions un culte, et que nous ne rendions pas de culte à d'autres idoles, comme des concours mondains ou d'autres cultes à la mode, comme le sport, la musique ou autre. Jésus est maître du sabbat. C'est pour que nous le vivions pour lui, un jour mis à part que nous voulons vivre pour sa gloire. C'est vrai que nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance, dans une théocratie politique, où il y avait des sanctions pénales pour ceux qui ne vivaient pas le sabbat. Par contre, nous croyons encore que les 10 commandements existent encore. Les 10, j'ai dit, pas les 9. Les 10 commandements existent encore et qu'en fait, ils révèlent, ils reflètent la volonté de Dieu que nous allons vivre si nous sommes en Christ. Et là, je n'ai parlé que d'un aspect qui est visible et que les anciens en place observent. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque et ne vit pas ce que tout chrétien est appelé à vivre, comment pourra-t-il l'enseigner ? L'aspiration et le désir que nous voyons dans ce verset 1 va pousser l'homme concerné à se former. Et ça, aspirer, c'est pas juste « j'ai envie de quelque chose qui est nébuleux ». Non. Il va se former, il va vivre et progresser dans la piété. Et même si personne d'autre que Dieu ne le voit, il va vivre cette piété. Parce qu'il est conscient que cette relation avec Dieu est la base et tout le reste va en découler. Donc l'aspiration et le désir que nous voyons dans ce verset 1 va pousser l'homme concerné à se former, à vivre et progresser dans la piété, même si personne d'autre que Dieu ne le voit, car il est conscient que cette relation avec Dieu, que c'est de cette relation avec Dieu que tout le reste va découler. Et c'est le cas de tous ceux qui sont en Christ et de manière plus marquée de ceux qui sont appelés à l'enseigner. L'apparition du désir dont il est question dans 1 Timothée 3:1 n'est pas une aspiration à avoir une autorité ou à prendre un rôle au-dessus des autres. Non, mais une motivation profonde de service marquée par l'exemple de Jésus, magnifiquement illustré dans Jean 13, les versets 12 à 17. Jean 13, ça vous dit quelque chose ? Jean 13, en fait, c'est quand Jésus il est avec ses disciples dans la chambre haute. Hein, c'est le dernier moment. Et puis là, il est dit ceci, « Après leur avoir lavé les pieds et après avoir repris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur. Et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez laver les pieds les uns aux autres. » Car je vous ai donné un exemple afin que vous aussi vous fassiez comme moi je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. Alors j'espère que vous commencez à comprendre que aspirer, et avec le désir, ce n'est pas avoir envie d'avoir une place, mais l'aspiration d'une belle activité selon Dieu. Une belle activité, c'est écrit dans le texte. Le ministère d'évêque est une œuvre prenante qui envahit toute la vie de la personne engagée et qui a des implications pour ses proches. Vous pouvez aller parler à nos épouses, aux enfants, ils vous le diront. Mais c'est un ministère excellent, honorable et glorieux. Car il s'agit de conduire dans la voie de Dieu, de transmettre la parole de Dieu, pas ses propres paroles, la parole de Dieu, d'être les co-bergers avec Jésus-Christ. C'est une belle activité. C'est un ministère excellent, honorable et glorieux, car il s'agit de conduire dans la voie de Dieu, de transmettre la parole de Dieu, pas ses propres paroles, d'être des co-bergers avec Jésus-Christ. C'est une question d'éternité. Il s'agit de guider, protéger, veiller au peuple de Dieu, le souverain de l'univers, de prendre soin de l'Église qu'il s'est acquise par son propre sang, comme il est dit dans Actes 20, 28. Et celui qui aspire à cela est conscient que c'est une belle activité. Et il est aussi conscient que c'est une œuvre difficile qui demande de l'abnégation, du don de soi, qui est exposé aux critiques et également aux attaques du diable qui cherche à faire tomber les responsables pour salir la réputation de Jésus-Christ qu'il déteste au plus haut point. Aspirer et désirer cette belle activité d'évêque, c'est un appel intérieur durable de service. C'est un appel intérieur durable de service, de sainteté, de disposition à travailler dur, veillant premièrement à sa relation avec Dieu. Donc aspirer et désirer cette belle activité d'évêque, c'est un appel intérieur durable de service, de sainteté, de disposition à travailler dur, veillant premièrement à sa relation avec Dieu. Ce n'est pas juste une idée qui s'en va. C'est quelque chose qui est ancré, parce que ça vient de Dieu. Vous savez, un jeune garçon qui aspire à devenir footballeur. Bon, cette période de Coupe du Monde, il y en a qui y pensent. Et bien en fait, il va vivre et qui vit dans le même esprit que 1 Timothée 3, il va s'entraîner chaque fois qu'il peut. Il va se documenter sur le foot. Il va regarder tous les matchs qu'il peut pour voir toutes les techniques et tactiques et autres. Et puis, il va imiter les joueurs professionnels. Il va parler de foot avec ses amis. Il y aspire, il le désire. Ce n'est pas juste une idée. Il le vit. Vous voyez ? C'est ça, aspirer. Ou bien on peut aller... les jeunes filles, peut-être c'est plutôt qu'ils veulent devenir chanteuses. Ah, ben, qu'est-ce qu'il fait ? Si quelqu'un me dit qu'elle veut devenir chanteuse et qu'elle ne chante jamais, elle n'y aspire pas. La personne qui aspire, chante chaque fois qu'elle le peut. Apprend à connaître des chansons, apprend à connaître des personnes qui peuvent l'aider à grandir dans le chant, aimerait parler avec des chanteuses, etc., en parler avec les autres. Vous voyez ? Ça, c'est aspirer, selon ce texte ici. Et cette aspiration, c'est Dieu qui la met. Et ça, c'est quelque chose qui est dans le cœur. Alors, tout chrétien devrait aspirer à vivre une vie qui plaise à Jésus-Christ. Tout chrétien. Des fois, on lit ces textes, on dit, ok, on est en train de parler des évêques là. Bon, on va parler d'eux. Non, mais mes chers frères et sœurs, tout chrétien doit aspirer à vivre une vie qui plaise à Jésus-Christ et désirer lui être soumis en tout et à se réjouir qu'il est notre roi et qu'il est venu nous sauver et qu'il nous a fait passer dans son royaume. Mais cette aspiration n'est pas une revendication, mais la vie d'une nouvelle nature, d'une reconnaissance pour le salut reçu en Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais nous étions condamnés. Condamnés, justement condamnés par nos péchés. Et moi, je prie que nous puissions saisir ce que signifie cette condamnation. Parce que mieux nous saisissons cette condamnation, mieux nous saisissons la délivrance. Celui qui ne sait pas de quoi il est délivré, il ne sera pas très heureux. Celui qui saisit la profondeur d'où il vient sera tellement heureux de voir la grandeur, qui est d'ailleurs beaucoup plus encore, de l'œuvre de Christ. Qui s'est abaissé jusqu'à la croix pour payer la rançon de quiconque croit. Et en Christ, nous avons reçu une nouvelle nature et de nouvelles aspirations. C'est-à-dire, si on n'a pas d'aspiration à vivre pour Dieu, on peut se poser la question si la nouvelle nature est présente. Vous savez, mes chers frères et sœurs, on ne cherche pas des personnes intéressées par Jésus-Christ ou par la Bible. Nous voulons des personnes régénérées, qui vivent une nouvelle nature que Dieu donne. Et parmi les chrétiens, il y aura des hommes qui auront une aspiration pour devenir évêques. Et si cela vient de Dieu, l'Église reconnaîtra qu'il a les qualifications. Tous les évêques, anciens pasteurs légitimes, ont cette aspiration. Elle ne s'invente pas, elle ne se choisit pas, elle vient de Dieu. Et si quelqu'un n'a pas l'aspiration et qu'il est ancien, qu'il arrête. Je ne parle pas qu'on est des fois en haut ou en bas, je ne parle pas de ça, je parle de l'aspiration à être. Ça, c'est quelque chose que Dieu donne. Et ça, je l'ai vu dans ma vie, je l'ai vu dans la vie de Marc, puis je le connais depuis un certain temps. Je l'ai vu avec Roland, on n'en a aussi plus à en parler. Donc, c'est toutes des choses, c'est une aspiration, elle est présente. Ça ne veut pas dire qu'on se sent capable, hein, mais c'est une aspiration. Alors, s'il y a la reconnaissance intérieure, il doit aussi avoir la reconnaissance extérieure. C'est notre troisième point. L'Église reconnaît les qualifications de l'évêque, les versets 2 à 7. Alors, pendant que je relis ce passage du verset 2 à 7, vous pouvez faire un petit exercice. C'est compter combien de qualifications sont données ici. Voilà, ça vous fait un petit exercice d'écoute. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, sensé, sociable, hospitalier, apte à l'enseignement, qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais conciliant, pacifique, désintéressé, qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission avec une parfaite dignité. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ? Qu'il ne soit pas nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. Ça va, vous avez compté ? Je ne sais pas où vous êtes arrivé, mais moi je suis arrivé au même chiffre que j'ai entendu, à 15. Alors après on peut un petit peu discuter de certaines choses, mais sur ces 15 qualifications, il y a une capacité ou une aptitude. En fait, il n'y a qu'une qui est liée à une capacité ou une aptitude. Les autres sont liées au caractère. La capacité ou l'aptitude demandée, c'est l'enseignement. L'enseignement, et ça, c'est ce qui différencie l'évêque du diacre. Alors, j'ai dit, on en parlera la prochaine fois du diacre, donc je ne vais pas en parler aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que le diacre ne peut pas enseigner, ne me comprenez pas mal. On parle ici de l'aptitude pour être évêque. Donc, il n'est pas indiqué qu'il faut une capacité oratoire développée. L'enseignement peut se faire dans des maisons en privé. Cela signifie simplement que l'évêque est capable de transmettre et d'expliquer la parole de Dieu. Il peut faire face aux contradicteurs et il a la capacité à fonder bibliquement ce qu'il demande. D'ailleurs, Tite le développe un petit peu. L'évêque est appelé à enseigner. Le terme évêque lui-même nous indique une notion d'autorité, puisqu'il signifie surveillant, responsable, personne chargée de contrôler, qui est directement liée aussi à son caractère de direction de son foyer. Alors, les deux aspects de enseignement et de l'autorité permettent de comprendre, avec le passage de 1 Timothée 2,12, qu'on a vu la dernière fois, qu'aucune femme ne pourra avoir une aspiration, un désir légitime d'être évêque venant de Dieu, parce que Dieu ne se contredit pas. Venons-en maintenant aux 14 caractéristiques liées au caractère et à la façon de vivre. Alors, tous ces critères ne sont pas exclusivement pour les évêques. Ils sont pour tout chrétien. Voilà, maintenant tu es concerné. Tout chrétien. L'évêque, devant l'enseigner, doit bien entendu le vivre et même avoir une certaine maturité dans ces domaines. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est dit au verset 6 qu'il ne doit pas être un jeune converti. Il a besoin du temps pour grandir en maturité. Alors, quelle est la première qualification qu'on voit ici au verset 2 ? Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Ça a fait fuir beaucoup de monde. Hein. Qui est irréprochable ici ? Levez la main. Alors, ça dépend comment on regarde la chose, les amis. Si c'est le fait « je suis parfait », personne ne va lever la main. Et s'il lève la main, c'est une marque d'imperfection, parce qu'il y a une mauvaise compréhension. Mais cela signifie qu'on ne peut pas trouver en lui une raison de le condamner. Et là, j'aime bien l'exemple de Daniel. Daniel, il est magnifique comme exemple. Vous connaissez peut-être un peu l'histoire, je vous lis juste ce texte dans Daniel 6, verset 5. « Alors les chefs et les satrapes cherchèrent un motif pour accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune erreur parce qu'il était fidèle et que ne trouvait chez lui ni négligence ni erreur. » Daniel n'était pas parfait. Mais il n'était pas négligent et il veillait à ne pas laisser derrière lui, ce qui signifie que s'il se trompait sur quelque chose, il le réglait sans délai, ce qui ne laissait aucune erreur que ses ennemis auraient pu utiliser contre lui. Vous voyez ? Nous pourrions aussi parler de bonne réputation. D'ailleurs, la dernière qualification concerne la réputation en dehors de l'Église, dans ce qu'on a vu aujourd'hui. Imaginez, quelqu'un qui n'est pas fiable ni sérieux dans son travail. Pas fiable, pas sérieux. Et ses collègues apprennent qu'il est évêque dans son église. Quelle image en auront-ils ? Et de Jésus lui-même, puisque les bergers d'une église en sont aussi des représentants modèles. Vous savez, tout le monde est ambassadeur, enfin tout le monde, tous ceux qui sont en Christ sont ambassadeurs de Christ. Et les évêques sont en quelque sorte les responsables des ambassadeurs. Le deuxième aspect, juste après le fait d'être irréprochable, c'est être mari d'une seule femme. Alors, c'est assez intéressant parce qu'un peu plus loin, bon, on n'y est encore pas, on y arrivera, mais un peu plus loin dans 1 Timothée 5, il est parlé des veuves et il est dit une veuve pour être inscrite sur la liste n'est pas moins de 60 ans et qu'elle était la femme d'un seul mari. C'est la même notion en fait. Il y a un élément qui est assez clair, ça signifie que la polygamie ou la polyandrie n'est pas à vivre en tant que chrétien et que si quelqu'un vit cela, il est exclu de certains rôles et privilèges dans l'Église. Donc ça, c'est assez clair. Mais ce n'est pas seulement cela. Mari d'une seule femme souligne la fidélité, l'exclusivité avec le conjoint vivant. Et l'adultère est un critère de disqualification. Et l'adultère est quelque chose de terrible. Pour tout chrétien, et particulièrement pour les responsables. Quelqu'un a fait une liste, là je prends un peu de temps parce que c'est quelque chose qui marque notre monde depuis tout le temps, en fait. Quelqu'un a fait une liste des conséquences possibles de l'adultère, une liste que toute personne qui est tentée de commettre l'adultère devrait lire avant. L'adultère traîne la réputation de Christ dans la boue. Celui qui est adultère devra dire à Dieu devant son trône de jugement pourquoi il agit de la sorte. La douleur et la blessure profonde infligée au conjoint et la perte de respect et de confiance, sans parler du tsunami émotionnel et du risque de séparation légitime. La peine infligée aux enfants ainsi que la perte de toute crédibilité à leurs yeux. Comment faire confiance à quelqu'un qui a trahi l'autre parent de la sorte ? Toute la famille, et l'Église est couverte de honte. Le témoignage personnel à des non-croyants est ridiculisé, plus crédible. Nous donnons beaucoup de joie à Satan et de tristesse à tous nos proches et premièrement au Seigneur. Il y a la possibilité d'attraper une maladie sexuellement transmissible, la possibilité d'une grossesse qui serait un souvenir persistant du péché commis. Les nombreuses années à tenter de reconstruire, certains parlent avec l'adultère d'un avenir décapité. Bon, je m'arrête. On pourrait continuer. Mais j'aimerais qu'on comprenne que c'est quelque chose de terrible. Tout péché est terrible. Et il y a des péchés qui ont encore plus de conséquences dans notre vie. Et pourtant, de nombreux évêques, que l'on peut aussi appeler pasteurs ou anciens, tombent dans ce piège, tellement bien décrit dans Proverbe 5, versets 1 et 9. J'ai lu un article qui parle d'une enquête faite auprès de 246 pasteurs ayant vécu une faillite morale. Et voici quatre caractéristiques communes à tous. Si je vous le partage, c'est que c'est pour nous enseigner. Premièrement, aucun n'était impliqué dans une réelle forme de redevabilité personnelle. Deuxièmement, ils avaient quasiment cessé de prendre un temps de culte quotidien, de prière et de lecture de la Bible. Troisièmement, plus de 80% des hommes se sont engagés sur le plan sexuel avec une femme avec laquelle ils passaient beaucoup de temps, souvent lors d'entretiens pastoraux. Et quatrièmement, sans exception, chacun des 246 hommes était convaincu que ce type de chute ne leur arriverait jamais. Et voici ce que dit l'auteur de cet article. À la lumière de cette enquête, je pense à quelques leçons. Celles-ci sont valables pour les pasteurs, les plombiers, les maires au foyer ou n'importe qui d'autre qui veut suivre le Christ. Premièrement, le péché prospère dans l'isolement. Le péché prospère dans l'isolement. C'est pourquoi les relations vraies de la communauté sont si importantes. C'est pour ça que la redevabilité est importante. C'est pour ça que les évêques aussi entre eux ont besoin d'avoir une vraie redevabilité. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle, lors de nos rencontres d'anciens, nous avons chaque fois un moment de confession de nos péchés. On ne va pas comme ça vous raconter tout ce qu'on se dit, mais on lutte ensemble face au péché. Et on cherche à être complètement ouvert. Avez-vous des personnes à qui vous pouvez confesser vos péchés ? Afin de lutter ensemble et grandir en sainteté ? Ou avez-vous peur ? Parce que si je dis que j'ai péché, qu'est-ce qu'il va penser de moi ? Mes chers frères et sœurs, si quelqu'un vient vers moi et me parle de son péché, vous savez ce que je pense de cette personne ? C'est qu'on va ensemble aller vers le Seigneur Jésus-Christ. C'est que je ne suis pas mieux que cette personne. Très souvent, j'ai les mêmes luttes. Et que, en fait, c'est ensemble qu'on va pouvoir aller déposer cela, s'encourager et grandir dans la foi. Et pour moi, généralement, la vue d'une personne qui vient me parler de son péché, elle ne diminue pas la valeur à mes yeux, elle augmente. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et je pense qu'avec le Seigneur, c'est bien plus comme ça, en fait. Deuxièmement, donc la notion d'isoler, de s'isoler ou de ne pas parler du péché, c'est la meilleure chose pour tomber. Deuxièmement, si vous jouez avec le péché, vous tomberez dans le péché. Proverbe de nouveau nous dit « Éloigne-toi d'elle, ne t'approche pas de la porte de sa maison. » Les évêques sont appelés à mettre des moyens en place pour ne pas jouer avec le péché ou le susciter. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas encore, c'est une des raisons qui pousse les anciens à éviter de se retrouver seul avec une femme dans un endroit privé, par exemple. Donc si, quand une dame vient vers nous, puis on dit « est-ce qu'on part à un entretien ?» puis qu'on vous dit « ben on va se retrouver à l'église, ou bien mais qu'on ne vient pas chez vous alors que vous êtes seul à la maison », c'est pas parce que nous ne vous aimons pas. C'est parce qu'en fait, il faut mettre des éléments en place bien avant que quoi que ce soit, même soit dans la tête, pour que nous soyons tous protégés. Après, la manière de faire, elle peut différer, hein, c'est clair. Troisièmement, la fierté nous aveugle sur notre faiblesse. Vous vous rappelez, les 246, ils ont tous dit « jamais ça m'arrivera ». Ainsi, celui qui est debout prend garde de ne pas tomber, dit 1 Corinthiens 10, 12. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'homme le plus sage du monde est tombé dans la tentation sexuelle. Hein. Il s'appelle Salomon. Et encore plus fort, l'homme selon le cœur de Dieu, David, a aussi été vaincu par les tentations sexuelles. Alors, David est en même temps un sujet de reconnaissance. Il y a la grâce. C'est vrai. Ce n'est pas fini. Mais il y a eu des conséquences. Et chez David, elles étaient graves. Mais il a été rétabli. Mais là, on voit vraiment un élément. Ne soyez pas présomptueux. Ça ne m'arrivera jamais. Celui qui dit ça, je vous préviens, repens-toi. Ça peut tous nous arriver. Donc faisons tout pour que ça n'arrive pas. Quatrièmement, la pureté est cultivée en aimant Jésus. C'est ainsi qu'on cultive la pureté. Ce n'est pas en allant vers le péché puis en essayant de le combattre. Non. Allez vers le Seigneur. En plus, vous allez gentiment oublier certaines choses que vous devez oublier pour se remplir du Seigneur Jésus. Jésus est notre secours. Il est dit dans Hébreux 4, les versets 14 à 16, « Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons fermement la confession de notre foi, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses. Mais il a été tenté comme nous à tous égards, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce en vue d'un secours opportun. » Et Jésus est plus encore qu'une aide ou qu'un secours. En fait, si nous trouvons notre plaisir en lui, nous ne le chercherons pas ailleurs. Pour ça, moi, j'aime tellement ce passage de Colossiens 2:10 qui m'est très cher pour différentes choses, mais aussi pour ces éléments-là. Vous avez tout pleinement en lui. Tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté, tout pouvoir. Bon, vous allez me dire, le temps a passé, on n'a pas beaucoup avancé dans toutes ces qualifications ce matin. Mais si j'ai pris un peu de temps pour ce sujet ici, mari d'une seule femme, c'est parce qu'il y a déjà eu beaucoup trop de dégâts dans ce domaine. Et d'autre part, comprendre quelques principes que nous venons de voir, en fait, est utile pour tout chrétien et également pour les autres qualifications. Être sobre, donc non maîtrisé par quoi que ce soit, sensé, donc réaliste, raisonnable, doué de bon sens et pas dans un monde de rêverie. Social, donc ouvert, bénissant les autres. Et hospitalier, donc accueillant, même ouvert à l'étranger. Ce sont des caractéristiques essentielles pour être crédible dans son rôle d'évêque, pour être en relation avec les personnes de qui nous devons prendre soin. Donc là, pour chacun, on pourrait reprendre beaucoup de temps. Actuellement, j'ai choisi de les grouper ici. Et de nous dire que Jésus-Christ, le berger divin, a été lorsqu'il était dans ce monde et continue d'être sobre, sensé, sociable et hospitalier. Non seulement il est notre modèle, donc là c'est un modèle, mais c'est encore auprès de lui que nous pouvons aller trouver, puiser nos forces pour les vivre. Au verset 3, il nous avait parlé de scandales qui disqualifient l'évêque, comme l'abus d'alcool et la violence. Et les vertus qui sont opposées juste après, être conciliant, ce qui signifie ne pas chercher les conflits, vivre dans la gentillesse. Alors, ce n'est pas une gentillesse, je fais tout ce que tu veux, c'est une gentillesse, je fais ce qui est juste et ce qui est bon. Être pacifique, ce qui signifie chercher la paix et non les querelles. Être désintéressé, ce qui signifie ne pas avoir l'amour de l'argent. Dans le même livre, dans 1 Timothée 6, Paul est assez fort. Hein, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Waouh. Vous savez comment ne pas aimer l'argent ou les biens matériels? Quel outil est utile? C'est la générosité. La générosité est un outil que Dieu nous donne. Et parfois, on donne en ne sachant même pas si nous allons recevoir le lendemain ce qu'on a besoin. Alors, on ne va pas se mettre dans le besoin, ne me comprenez pas mal. Mais on n'est pas en train de faire des projections, de dire, ben voilà, je donne et je ne sais pas si... Non, je fais confiance. quelqu'un a besoin à côté de moi, je lui donne. Je peux vivre demain. Puis après-demain, Dieu prendra soin. C'est cette notion de ne pas être en fait intéressé. Et je ne veux pas être évêque dans l'église pour ramasser quelque chose. C'est tellement important. Et la dernière qualification dont nous n'avons pas encore parlé est décrite au verset 4 et 5. Regardez avec moi. Qu'il dirige, et là c'est développé en deux versets. Qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission avec une parfaite dignité. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ? Et là, nous voyons au verset 4 et au verset 5 deux aspects de diriger. Le premier aspect au verset 4, c'est tenir ses enfants dans la soumission et le respect. C'est cette notion, en fait, d'apprendre aux enfants à obéir. Si un père demande 3-4 fois à son enfant de faire quelque chose et qu'il ne le fait pas, de manière habituelle, hein, je ne parle pas, il y a des coups de fou, hein, mais je parle de manière récurrente, il ne sait pas diriger sa maison. Le verset 5 nous dit que diriger, c'est prendre soin de l'Église de Dieu. Cela signifie que c'est l'Église de Dieu, déjà. Ce n'est pas celle de l'évêque, c'est l'Église de Dieu. Et prendre soin, ce n'est pas donner des ordres, c'est donner la direction, montrer l'exemple et accompagner. Donc, diriger, ce n'est pas donner des ordres, c'est donner la direction. Alors, on dit des choses, hein, pour donner la direction, c'est vrai. Montrer l'exemple et accompagner. Alors, ces qualifications qui sont dans ce chapitre 3 ne sont pas exhaustives. On pourrait dire que ce n'est pas une checklist terminée. Mais cela donne le ton, la direction du caractère que l'évêque doit manifester. Tite parlera encore, par exemple, de l'attachement à la parole ou de la consécration. Pierre indiquera, entre autres, que le service doit être volontaire. Ça signifie qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à être évêque. Ce n'est pas biblique. Toutes ces qualifications nous montrent que ce n'est pas premièrement les capacités de direction que l'on doit chercher, même si souvent elles sont aussi présentes, car Dieu, lorsqu'il appelle pour un service, équipe pour la tâche qui est donnée, c'est vrai. Mais le cœur, le caractère est le plus important. Et mieux vaut un évêque consacré, irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, sensé, sociable, hospitalier, apte à l'enseignement, pas adonné au vin, pas violent, conciliant, pacifique, désintéressé, qui dirige bien sa maison et qui a un bon témoignage du dehors, que quelqu'un qui n'a pas ces traits caractéristiques, mais qui a une grande capacité de leadership, qui est charismatique, avec une éloquence et une verve oratoire hors norme, bien organisée, méthodique, avec une formation universitaire prestigieuse, s'il n'a pas les qualifications bibliques, il salira le nom de Christ et ne conduira pas les membres de l'Église dans la piété, mais dans une vie d'association religieuse, peut-être belle à voir jusqu'au scandale, mais vide et sans puissance de l'Évangile. Un peu comme une coquille de noix magnifique, mais vide à l'intérieur. Telle une personne douée pour conduire les autres, mais n'ayant pas les caractéristiques de Christ en lui-même. Alors sommes-nous conscients que ces caractéristiques de l'évêque, nous sommes tous invités à les rechercher et les développer ? Sommes-nous conscients que si l'on veut des évêques qui vivent selon la parole de Dieu, il faut élever les enfants dès leur plus jeune âge avec ces caractéristiques en tête ? Il ne faut pas qu'on se dise, ils sont adultes, il faut qu'on leur apprenne ceci. C'est dès l'enfance. Sommes-nous conscients que nous avons à encourager les évêques en place à continuer à progresser dans les différentes qualifications qui devraient les caractériser ? N'hésitez pas. Alors là, je dis pour moi, je ne veux pas prendre la parole pour mes deux autres collègues, mais si vous voyez quelque chose par rapport à ceci, vous dites, mais il y a quelque chose qui ne joue pas dans ta vie, mais venez me le dire. Alors si vous me le dites, pas avec arrogance et puis pas avec une grande colère, ça sera un peu plus facile pour moi de le recevoir. Mais voilà, je dois aussi recevoir comme Dieu permet que ça arrive. Et sommes-nous conscients que ce n'est pas par nos propres forces ou par les forces de l'évêque que cela peut se vivre, mais uniquement dans une dépendance et une action de Jésus-Christ? Voilà pourquoi la prière est essentielle. On a vu dans 1 Timothée 2 le premièrement de la prière. En conclusion, rappelons-nous que nous pouvons utiliser le terme évêque, ancien, pasteur ou berger de façon identique. Il s'agit de la même personne qui est appelée à surveiller avec sagesse et en prenant soin. Le modèle et la ressource de tout évêque, c'est le divin berger Jésus-Christ. On prédique l'évêque des évêques. Rappelons-nous qu'aspirer à la charge d'évêque, ce n'est pas juste une idée ou un sentiment. C'est un désir actif qui se forme, qui est disponible pour le service et sans revendication. Prions que Dieu mette cette aspiration dans le cœur de plusieurs hommes de notre Église, parce que nous avons besoin d'évêques, et nous en avons besoin très prochainement, au moins d'un nouveau. Prions, prions pour cela. Prions qu'en même temps, il y ait cette aspiration qui soit mise dans le cœur, et en même temps que nous puissions simplement voir, ben oui, ces qualifications que nous voyons, elles sont là, elles sont là. Rappelons-nous que les qualifications de l'évêque sont premièrement des qualités de cœur indispensables qui soutiennent les capacités de direction, et prions que la piété des évêques progresse. Jésus-Christ est le berger en chef, l'ancien premier parmi ses pairs. C'est lui qui dirige tous les évêques fidèles à la parole. Et j'aimerais vous laisser encore deux questions. Alors, c'est juste le temps de se réveiller parce qu'on arrive à la fin. Donc, deux questions que vous pouvez prendre avec vous. Est-ce que vous mettez tout en place pour vivre les qualifications de l'évêque qui vous concernent aussi? Ça, c'est la première question qui vous concerne directement. Puis la deuxième question, est-ce que vous faites tout ce qui est possible pour encourager ceux autour de vous à vivre ces qualifications, particulièrement les évêques en place? Donc, il y a l'effort par rapport à ce que nous vivons, par rapport à nous-mêmes. Et je vous rappelle, la première chose, c'est la prière, c'est la relation avec Dieu. Et qu'est-ce qu'on fait pour encourager ceux qui sont autour de nous de le vivre? Je le répète, tout commence et se vit dans la prière, car nous sommes entièrement dépendants de Dieu. Et puis j'aimerais encore vous dire, je parle de prière active. Vous savez ce que c'est une prière active? C'est une prière qui s'engage chaque fois que la réponse à la prière, c'est nous, et que nous avons reçu les capacités de le faire. Quand vous priez quelque chose et que vous avez les capacités de faire ce que vous demandez, pourquoi ce n'est pas vous la réponse à la prière? Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, nous te disons merci pour ta parole qui est efficace, qui est claire, qui nous permet aussi d'être guidés. Seigneur, si tu nous avais demandé qu'est-ce qu'il fallait mettre comme qualification pour quelqu'un qui doit diriger ton Église, je ne peux pas dire ce que nous aurions dit, parce que nous ne sommes pas sur un terrain neutre où nous n'avons aucune pensée. Mais Seigneur, je veux simplement m'émerveiller que ce que tu demandes est tellement bon. C'est bon d'avoir des évêques, des anciens à nos côtés, à mes côtés, à qui je peux aussi me soumettre et me réjouir de voir qu'ils vivent, Seigneur, ces choses-là. Aide-nous, Seigneur, à les vivre d'une manière toujours meilleure, toujours mieux, afin de grandir. Nous nous sentons bien faibles sur ce que nous voyons tout cela. Mais en même temps, nous sommes solidaires parce que tous ensemble, nous voulons grandir dans ce que tu désires que nous vivions pour ta gloire. Éternel, j'aimerais te prier de susciter encore des hommes qui prennent leurs responsabilités. Donne une aspiration dans le cœur de plusieurs. Dans le beau nom de Jésus-Christ, amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez entendre d'autres prédications ou profiter de ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.